Chapitre 9. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, Madame Damplem eut la stupéfaction de voir apparaître son beau-fils, tenant par la main un joli petit garçon aux cheveux bouclés. Lorenzo expliqua. « Madame Herry est bien plus souffrante ce matin, et j'amène Joseph pour vous le confier, Hélène. Mademoiselle Ambert a pris les deux petites, car ce pauvre Georges a bien assez de soigner sa femme, avec l'aide de la garde-malade que doit lui envoyer Mademoiselle Madeleine. » « Mais qu'a-t-elle ? » s'informa la jeune fille en attirant à elle Joseph pour l'embrasser tendrement. « Le médecin que j'ai été chercher ce matin parle d'un profond épuisement produit par le surmenage physique et les soucis quotidiens. Je crois qu'il est dans le vrai. Cette malheureuse a besoin de repos, de bonne nourriture et surtout de savoir l'existence des siens assurée, alors que chaque jour il lui fallait se poser l'angoissante question « Comment vivrons-nous ? » Madame Damplem dit avec une pitié dédaigneuse « Oui, leur sort est triste, mais il aurait pu se trouver amélioré s'ils avaient mis de côté un orgueil déplacé. Quelques-unes de ces dames ont eu la bonne pensée de les secourir et Madame Loriot s'est rendue chez eux à cette intention. Mais elle a été reçue avec tant de froideur qu'elle est revenue très froissée en déclarant que ces vaniteux ne méritaient pas qu'on se soucie à d'eux. « Ah, vraiment, c'est un abîme de charité, cette excellente Madame Loriot. Après avoir écrasé de ses airs humiliants ces pauvres gens rendus plus sensibles par leur malheur, après leur avoir prodigué ces propos froissants de femmes sans tact et sans cœur, elle les accable au surplus de ses jugements implacables, les voue à l'abandon, à l'oubli. L'aimable et généreuse femme !» Madame Damplem jeta un coup d'œil irrité vers son beau-fils. « Madame Loriot a parfaitement raison. Quand on a affaire à des gens pourvus d'une sotte fierté, » Lorenzo l'interrompit d'un ton bref et dur. « Veuillez, je vous prie, ne pas discuter là-dessus, car je ne souffrirai pas d'entendre quoi que ce soit contre les amis qui m'ont accueilli avec tant de sympathie, alors qu'ils savaient n'avoir à attendre de moi aucun profit. » Madame Damplem rougit de colère et retint à grand-peine une réponse furieuse. Lui parler ainsi, et sur ce ton, et avec cet air de maître, c'était intolérable. Pourtant, il fallait se taire. Mais quel ressentiment s'amassait en son âme contre ce Lorenzo maudit! Pendant tout le repas, Jeannine, Félix et elle feignirent d'ignorer la présence de Joseph. Celui-ci, placé entre Hélène et Lorenzo, se tenait fort bien à table sans dire un mot. De temps à autre, il attachait son regard intimidé sur les visages inconnus. Puis il le levait, confiant et tendre, vers les deux jeunes gens qui s'occupaient de lui avec sollicitude. Parfois, Lorenzo passait une main caressante sur la petite tête brune ou donnait une tape amicale sur la joue pâlie. « Il va falloir les remplir, ces pauvres petites joues-là, » dit-il à un moment. « Allons, mange bien, Josu. « Passe-moi le plat, Félix, que je lui donne encore un peu de rôti. » Madame Damplem, cette fois, ne put tout à fait contenir son exaspération. « Je vous ferai observer, Lorenzo, que nous avions là ce qu'il fallait pour le déjeuner de demain et qu'après de telles brèches, il sera nécessaire de faire un nouveau plat. Or, je ne suis pas en situation de nourrir tous les miséreux qu'il vous plairait de m'amener. » Elle s'interrompit sous le méprisant et sarcastique regard qui se tournait vers elle. « Soyez sans crainte, ces tranches de rôti vous seront payées comme tout ce que pourra consommer cet enfant tant qu'il demeurera sous mon toit. Mais ne vous étonnez pas, madame, si, à votre tour, vous vous trouvez dans l'embarras de rencontrer chez autrui la même dureté, le même dédain que vous témoignez en ce moment à des malheureux dignes de toute compassion et de tout respect. » Madame Damplem crut discerner dans les paroles de son beau-fils un accent de menace qui l'inquiéta d'autant plus que ses embarras pécuniaires devenaient plus pressants. Les créanciers commençaient de perdre patience, les prêteurs bénévoles ne voulaient plus rien entendre. Que Lorenzo la fît partir de la maison, ce serait pire encore. La pauvreté guettait donc ses enfants et elle, cette pauvreté qu'elle méprisait tant chez son beau-fils, chez les Herry. Et cette pensée jetée dans l'angoisse, son âme sèche, vaniteuse, sans courage. Aussi fit-elle bientôt taire Jeanine qui, après le déjeuner, seule avec sa mère et son jeune frère, exhalait en termes véhéments sa colère contre les insolences de Lorenzo. « Tu sais bien que nous devons tout supporter de sa part, ma pauvre enfant. J'ai eu grand tort de me laisser aller tout à l'heure à cette protestation. » « Par exemple, il faudrait donc que nous nous chargions de nourrir ce petit Herri, parce qu'il plaît à ce monsieur de faire le généreux. S'il tient à l'amener ici, eh bien qu'il paie, c'est trop naturel. » « En effet, mais ce Lorenzo est tellement susceptible. Son air et ses manières sont absolument intolérables. Et pourtant, il faut subir ses fantaisies. Ah, j'avais bien besoin d'avoir encore cet être-là pour augmenter mes ennuis. » Félix, qui avait sur le cœur une récente observation railleuse de Lorenzo sur ses allures de petit snob, grommela rageusement. « Moi, je ne veux plus qu'il me parle comme il le fait toujours. Je ne veux plus lui obéir. »« Mais il le faut bien, mon petit Félix. Ne va pas l'exciter encore. Au contraire, essaie de quelques prévenances. » En levant irrévérencieusement les épaules, le jeune garçon riposta. « Ah bien, des prévenances, il peut les attendre. Ce n'est toujours pas moi qui lui en donnerai. » Dans la matinée du lendemain, Mademoiselle Humbert et Hélène, avec le petit Joseph, se rendirent chez les Herri. Elles trouvèrent la jeune femme un peu mieux, mais très faible encore. Toutes deux s'occupèrent de faire le ménage, en dépit des protestations de Madame Herri. Georges leur parla avec émotion de la discrète bonté, du dévouement sans phrase que Lorenzo témoignait à ses amis. Le jeune homme l'avait forcé d'accepter un billet de 100 francs en disant qu'un célibataire comme lui avait besoin de peu de choses et qu'il souhaitait de pouvoir leur venir en aide plus efficacement. « Le don du pauvre à plus pauvre que soi, » ajouta M. Herri. « Ah, ce cher Lorenzo est bien un véritable ami et nous ne saurons jamais assez lui témoigner notre reconnaissance. »« Oh oui, il est bon, si bon !» dit Hélène avec ferveur. Mademoiselle Humbert lui jeta un coup d'œil, mi-ému, mi-malicieux, en songeant. « Oui, je crois que cette petite Hélène l'admire fort, notre beau Lorenzo, et qu'il n'a pas à craindre de refus. » Les deux femmes, en quittant les Herri, emmenèrent Joseph, qui devait encore passer un jour ou deux avec Hélène. Comme elle sortait de la maison, une voiture luxueuse passa. Chauffeur et valet de pied portaient une sobre livrée grenat foncé. À l'intérieur était assis un jeune homme blond, de mine distinguée. Hélène dit en souriant « C'est peut-être l'Anglais, le nouveau propriétaire d'Archancy. » « Probablement, car personne dans nos environs n'a une voiture et une livrée telles que celle-là. » Dans la rue basse, Hélène laissa Mademoiselle Humbert à la porte de son logis, avec Joseph qu'elle gardait jusqu'au dîner, et continua sa route vers la maison d'Emplaine. En arrivant sur la place, elle se rencontra avec Lorenzo, qui rentrait aussi. Tous deux, en s'entretenant de la malade qu'Hélène venait de voir, gagnèrent la porte du logis. Lorenzo l'ouvrit avec la clé qu'il se réservait pour son usage personnel, mais comme il se reculait pour laisser passer sa cousine, Félix parut sur le seuil, l'air pressé, important, fier comme un paon, dans son pantalon de flanelle blanche et sa chemise de soie bleue, dont Madame d'Emplaine, en dépit du triste état de ses finances, n'avait su lui refuser l'achat. Il bouscula Hélène sans s'excuser, mais une main vigoureuse lui saisit le bras et l'immobilisa. « Qu'est-ce que c'est que ces façons? Comment te permets-tu cette grossièreté à l'égard de ta cousine ?» Arrogamment, Félix riposta. « Oh, Hélène, ça ne compte pas !»« Vraiment? Eh bien, je vais te montrer, moi, que ça compte !» Il entraîna dans le vestibule le jeune garçon qui essayait de résister et dit à Hélène « Fermez la porte, je vous prie. Là, maintenant, tu vas demander pardon à ta cousine. » Félix dit avec fureur « Ça, jamais! Et vous, laissez-moi !»« Jamais? Nous allons voir. J'en ai fait obéir de plus difficile que toi. Je te préviens que c'est sérieux et que tu vas recevoir une correction dont tu te souviendras. Veux-tu m'obéir avant que je commence ?»« Non, non, lâchez-moi !» Mais Lorenzo, le maintenant d'une main, lui appliqua un soufflet qui marqua de rouge sa joue droite. Félix jeta un cri de rage en se démenant furieusement. Hélène supplia. « Laissez-le, oh, Lorenzo, je vous en prie !»«
Calmez votre sensibilité, Hélène. Cela est excellent pour abattre la morgue des petits jeunes gens très chics. Es-tu prêt à obéir ou bien en veux-tu encore ?» Félix essayait en vain d'échapper à cette main dure et vigoureuse. Il bégaya.
« Lâchez-moi ! Vous n'avez pas le droit ! Lâchez-moi !»«
Je n'ai pas le droit ? Eh bien, je le prends, en tout cas. Tiens, en voilà la preuve. Cela te suffit ? Non ? Il est facile de te contenter, mon garçon. Quand tu en auras assez, tu te décideras à m'obéir, car ce n'est pas moi qui céderai, je t'en réponds. »
Il est probable que Félix en était persuadé, car il balbutia enfin d'une voix rauque.
« Je vous demande pardon, Hélène !»
Lorenz le lâcha alors en disant brièvement
« C'est bon, va-t'en !»
Félix s'éloigna vers l'escalier, la tête basse, et ne songeant plus à sortir. Lorenz se tourna vers sa cousine, qui restait immobile, la figure toute bouleversée.
« Il faut peu de choses pour vous émouvoir, sensible petite fille !»
Elle répliqua d'un ton de reproche, avec une lueur de crainte, d'inquiétude, dans ses beaux yeux.
« Comme vous savez être dur, comme vous l'humiliez !»
Félix a besoin d'être traité de cette manière. Sa mère l'a ridiculement gâté, l'a laissé devenir un stupide petit poseur qui se croit tout permis. Or, j'ai cela en horreur, et je veux en corriger ce garçon qui n'est peut-être pas mauvais au fond.
« Mieux vaudrait essayer par la douceur, par la persuasion. »«
Non, je crois que mon moyen est préférable avec cette nature-là. Madame Damplem a élevé ses enfants selon ses principes, c'est-à-dire leur a appris à mépriser la faiblesse, la pauvreté, le malheur, à s'incliner devant ceux qui possèdent la force et la richesse. Félix doit donc être humilié, maté, pour reconnaître en moi son maître. » Croyez, Hélène, qu'il en retirera plus tard un grand avantage. D'ailleurs, la douceur, ce n'est pas tout à fait mon affaire. Là-bas, avec mes cafres, elle n'était pas de mise. À la moindre faiblesse, ces gens-là nous seraient tombés sur le dos. Aussi ai-je pris l'habitude d'avoir la poigne un peu dure et la correction facile.
Hélène murmura avec un regard craintif.
Oui, vous faites cela si froidement, avec une entière possession de vous-même.
En effet, je ne suis pas un violent. Si j'ai corrigé Félix, ce n'est pas en un mouvement de colère, mais avec un entier sang-froid. Aussi, Lénique, je ne veux pas vous voir cet air de crainte qui me révèle que vous avez un peu peur de moi.
Il se penchait et prenait les mains de la jeune fille entre les siennes, devenues douces et caressantes.
« Oui, petite cousine, si je sais être sévère, peut-être un peu dur parfois pour ceux qui le méritent, j'ai cependant un cœur très affectueux et je compte bien le prouver à ceux qui m'ont témoigné de la sympathie, de la bienveillance. Je serais donc désolée que vous eussiez peur de moi, Hélène. Très désolée, je vous l'affirme. »
Les yeux noirs, ardents et doux à la fois, considéraient avec une amoureuse inquiétude la jeune fille qui se troublait sous ce regard.
Elle balbutia. « Mais, Lorenzo, je sais comme vous êtes bon, pour moi, pour les héris. »
Il dit à mi-voix, d'un accent à la fois tendre et impératif, « Venez, j'ai à vous parler. » Elle le suivit au fond du jardin, près d'une petite bâtisse servant à ranger les outils de jardinier. Le mur disparaissait presque, en ce moment, sous une floraison de roses blanches et rouges. Lorenzo et Hélène prirent place sur un vieux banc, près de la porte à demi défoncée. Devant eux s'étendait une plate-bande négligée où se mêlaient en un pittoresque désordre des groseilliers et des cassis échevelés, des fraisiers, des petits rosiers de Bengale et des mauvaises herbes à foison. Madame Damplem faisait des économies sur le jardinage et laissait toute cette partie de l'enclos à l'abandon. Lorenzo avait repris les mains de sa cousine. Celle-ci, rougissante, saisie d'un émoi jusqu'alors inconnu, baissait un peu les paupières sous le chaud regard qui l'enveloppait. Elle les releva tout à coup en tressaillant, car des lèvres ardentes venaient de se poser sur ses doigts tremblants.
« Hélène, très chère, aurez-vous assez de confiance en moi pour accepter de devenir ma femme ?»
Elle le regarda un moment sans parler, dominée par la surprise et l'émotion. Enfin, elle murmura,
Oh, Lorenzo, vraiment, vous songeriez ?
Si j'y songe, mais dès les premiers jours où je vous ai connu, j'ai compris que vous étiez pour moi la femme idéale et je vous ai aimée, Hélène, si profondément aimée. La rougeur se fit plus brûlante sur le charmant visage et, de nouveau, les cils voilèrent les yeux troublés.
« Chère petite cousine, dites-moi vite que vous consentez. Dites-moi que ce terrible Lorenzo ne vous effraie pas et que vous aurez confiance en lui. Si vous saviez, Hélène, comme je souhaite vous rendre heureuse, si vous vous doutiez de l'influence que vous pourrez avoir sur moi. »
Le soleil de midi arrivait jusqu'à eux, frôlait les cheveux bruns, la très simple robe noire d'Hélène et le vêtement fané de Lorenzo. Des mouches bourdonnaient dans l'air chaud, parfumées de la senteur des roses, du réséda, des petits œillets rouges qui bordaient les plates-bandes plus proches de la maison. Hélène frissonnait de bonheur et d'une sorte d'angoisse en écoutant la voix chaude, ardente, qui la suppliait. Dans les yeux qui lui avaient pris le cœur, dès le premier moment, elle venait de voir la brûlante prière de l'amour. Et cette révélation la laissait tremblante, incertaine, pleine de troubles, mais aussi étrangement heureuse. « Malénique, consentez-vous à faire mon bonheur ?» Elle murmura avec un sourire timide.
« Ne voulez-vous pas me laisser réfléchir ?»«
Non, je veux que vous m'accordiez dès maintenant votre confiance. Est-ce donc trop demandé ?» Elle répliqua spontanément.
« Non, car j'ai eu des preuves de votre bonté, de votre générosité. Je serai votre femme, Lorenzo, et avec une grande joie, croyez-le.
Combien je vous remercie de cette confiance, ma chère Hélène. » De nouveau, les lèvres de Lorenzo s'appuyaient sur la main frémissante. Pendant un moment, les deux jeunes gens restèrent silencieux, se regardant avec une émotion profonde. Puis Lorenzo demanda, souriant et légèrement ironique, « Vous ne vous inquiétez pas de savoir quelle sera la situation pécuniaire de notre futur ménage, Lénique ?»«
Oh, mon ami, nous travaillerons tous deux. Je suis pleine de courage du moment où j'aurai votre affection. »
Elle souriait aussi en le regardant avec une tendresse ingénue. Dans les yeux noirs, l'émotion se fit plus vive. D'un ton bas, passionné, Lorenzo répliqua, « Hélène, chérie, quelle parfaite compagne vous serez pour l'homme heureux dont vous acceptez de partager la vie. Oui, nous travaillerons dans la voie que Dieu nous tracera et vous verrez que notre existence s'arrangera assez facilement. » Après un court silence, pendant lequel il mit un baiser sur les soyeux cheveux bruns d'Hélène, Lorenzo ajouta, « Je vais précisément partir après-demain pour Paris afin de me décider au sujet d'une situation. » En même temps, je choisirai votre bague de fiançailles. » Hélène demanda,
« Resterez-vous longtemps ?»«
Non, pas plus de 3 jours probablement. Mais voici midi qui sonne. Allons déjeuner, ma petite Hélène. » Dans le vestibule, les deux jeunes gens se heurtèrent à Madame d'Amplem qui descendait, rouge, les yeux animés, la mine furieuse. Tout à l'heure, Félix, en montant, était venu se jeter sur le divan de sa chambre dans une crise de rage. À ses interrogations anxieuses, il répondait
« Je le déteste! Il m'a traité comme un chien! Je ne veux plus le voir! Je veux m'en aller d'ici !»
Enfin, elle avait réussi à lui arracher le récit de ce qui s'était passé. En apprenant le traitement infligé à son préféré, cet enfant dont elle flattait si bien les défauts, Madame d'Amplem avait éprouvé la plus violente colère et, ne se possédant plus, oubliant ce que serait pour elle une rupture avec son beau-fils, elle arrivait, furibonde, cherchant Lorenzo. À sa vue, elle s'écria, d'une voix que l'irritation étranglait,
« J'ai à vous parler, monsieur !»
Froidement, il riposta, « Je suis à votre disposition, madame. » Il la fit entrer dans le bureau. Tout aussitôt, elle l'apostropha d'un air dramatique. « Vous venez, monsieur, d'abuser odieusement de votre force physique sur votre jeune frère. Le pauvre enfant a eu une crise nerveuse que j'ai calmée à grand-peine. Faites tant que vous le voudrez le chevalier près de cette petite sotte d'Hélène, déjà complètement compromise par vous, mais moi, je ne tolérerai pas que mon fils soit l'objet de vos brutalités. Vous n'avez aucun droit à son égard et vous n'avez pas à vous occuper de lui. » « Mes enfants se sont bien passés de vous pendant des années.
Votre insupportable tutelle n'a donc aucun motif de s'exercer sur eux aujourd'hui. » Elle allait, s'excitant en parlant, s'irritant davantage devant le calme hautain de son beau-fils qui se tenait devant elle, les bras croisés, le regard chargé de froide raillerie. Quand elle se tut, il dit avec une tranquillité glaciale « Vous avez tout à fait raison, madame. Jeannine et Félix seront désormais pour moi des étrangers dont je ne m'occuperai plus en aucune façon. Mais je dois vous prévenir que je ne supporterai pas chez moi la présence d'un enfant mal élevé. Comme d'autre part, je suis fiancée à Hélène et compte me marier dans quelques semaines, vous voudrez bien prendre vos dispositions pour trouver un autre logis. » Suffoquant de rage, Madame Domplaine bégaya. « Ah, vous nous mettez à la porte de la maison de famille. Voilà qui va compléter la bonne opinion qu'on a de vous dans le pays. Et vous épousez Hélène. Vraiment, c'est complet. » Elle essayait de rire en cherchant ce qui pourrait blesser Lorenzo. « Le beau ménage que cela fera. Elle peut s'habituer à n'avoir pas trop grand faim avec un mari qui sera incapable de la nourrir. » Lorenzo riposta sur un ton de mordante ironie. « Elle ne mourra pas de misère, ne craignez rien. Et, en fait, nous sommes beaucoup plus riches que vous, puisque nous n'avons pas de dettes. » Clouée par cette réponse, Madame Domplaine demeura sans parole. Lorenzo ajouta, de ce ton froid et impératif qui exaspérait sa belle-mère, « Un mot encore. Si vous ne voulez pas que je relève comme elle le mérite les sottises et les insolences de votre fils, prévenez-le qu'il ne bronche pas devant moi. » Il sera même plus prudent pour lui qu'il prenne ses repas dans sa chambre si vous tenez à ce que je ne touche pas à sa précieuse personne. » Madame Domplaine répliqua d'une voix que la colère rendait presque inintelligible. « Nous vous délivrerons tous de notre présence le plus tôt possible, ne craignez rien !» Quand la porte se fut refermée, Lorenzo fit quelques pas de long en large à travers la pièce. Un sourire sarcastique entr'ouvrait ses lèvres. Mais ce sourire s'effaça, tandis que le jeune homme s'arrêtait devant le portrait de sa mère, découvert par lui dans le grenier où il était relégué. Gelsomine, vêtue de blanc, attachait sur son fils le regard caressant, un peu mélancolique, de ses beaux yeux noirs. Lorenzo murmura ardemment « Ah, mère chérie, voilà la femme que mon pauvre père avait choisie pour vous remplacer. Mais ma chère Hélène vous continuera dignement, elle, et vous l'auriez aimée, vous auriez applaudi au choix de votre enfant, l'exilé revenu au pays natal et n'ayant plus soif que d'un foyer, d'une affection profonde et fidèle. »